Bonsoir, bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir à tous les auditeurs d'Agora Côte d'Azur de Onde Noire.
Voilà, donc au sommaire de cette dernière émission de
la saison.
Donc des chroniques de livres, des chroniques par Jacques, mais aussi nous aurons le plaisir de retrouver nos deux chroniqueurs habituels, Jean-Marc Lehrer pour un roman, et enfin, en deuxième partie d'émission, Frédéric qui pourra nous parler d'une BD, comme il m'a annoncé, une BD de l'été, mais je n'en sais pas plus. Jacques, on va commencer par un roman.
Eh bien, pour commencer cette émission, et vu le temps qu'il fait ici sur la Côte d'Azur, je vais vous parler d'un roman breton. Publié chez un éditeur breton lui aussi, les éditions Sixto, dans leur collection polar Le Cercle Sixto. Le roman s'appelle Le Guerrier Mouktar. Il est écrit par Arnaud Le Gouelfec.
Mais c'est breton, Jacques, je te rappelle.
C'est breton, voilà. Et il se passe, devinez.
En Bretagne.
Mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un polar régionaliste breton-bretonnant, comme on en lit parfois. C'est un vrai roman noir qui commence et se déroule en grande partie, on est en Bretagne, dans un bistrot. Un troquet nommé aux deux éléphants. Le narrateur s'appelle Raymond, c'est un serrurier au chômage. Et il va croiser dans ce bar un homme qui se fait appeler le colonel. Et sa vie, disons plutôt morne, va changer. Une petite lecture après la première rencontre avec le colonel. Je suis rentré chez moi, ivre. Ça a infusé violemment dans mon sommeil. Je rêvais plus depuis des mois. L'imagination m'avait quitté, comme un alcool qui s'évente. Je la retrouvais là où je l'avais laissée. Mon cerveau a tourné comme une bobine. Il a déroulé des pellicules que je ne lui connaissais pas. Au réveil, j'étais tout plié d'images, comme un livre en accordéon.
Joli style.
Voilà, c'est très beau style. Et donc ce colonel, c'est un ancien de l'armée des Indes, l'armée britannique. Enfin, du moins, c'est ce qu'il prétend. Et il va raconter sa vie comme il la rêve, sa vie vue au travers des nombreux verres de whisky qu'il consomme, du whisky d'Islay, de préférence, quand il a les moyens.
C'est-à-dire des îles, hein.
Des îles, voilà, bien tourbées. Et une vie, donc, d'exotisme, de voyage, de bataille, de chasse aux fauves, et aussi la vraie vie des guerriers Mouktar. C'est intriguant ce titre, c'est Guerrier Mouktar. Donc je vais vous lire tout de suite ce que l'auteur en dit en quelques mots.
Une fois que tu auras trouvé la page,
qui est bien marquée pourtant.
Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui lui pose la question, qu'est-ce que c'est que les guerriers Mouktar? Ça ne s'ébruite pas comme ça, le grand secret. Il ne faut pas les vanter, mes gaillards. Le guerrier Mouktar formait une petite confrérie. Il vivait à côté de Panimshawabawa. J'ai répété, mais c'est pas terrible.
Oui.
Sur les rives, ça c'est plus facile, sur les rives du Brahmapoutre.
T'as choisi le passage.
Sur les rives du Brahmapoutre, ça c'est facile.
Nos courses
dans les montagnes. Les Mouktar, c'était des dieux de la guerre descendus sur terre pour faire leur fête aux Frenchies. Voilà, donc c'était des guerriers sauvages qui étaient apparemment dans l'Inde, quoi.
Par rapport à l'armée des Indes sauvages.
Voilà, dans une Inde. Et le duo, donc Raymond et le colonel, va vite devenir un petit groupe au fur et à mesure des libations, des gens qui sont dans ce bar.
Qui voient double.
Non, il va y avoir des personnages de romans, mais c'est des vrais personnages puisqu'ils sont dans le bar. Des personnages que la vie a brisés un petit peu. Donc il y en a un qui est surnommé Gabji. C'est un aveugle qui est habillé toujours en habit de Pierrot et dont la seule activité, pratiquement, à part d'aller dans le bar, c'est de tirer à l'arc.
Pour un aveugle.
Alors, pour éviter les problèmes.
Il ne faut pas qu'il ait Parkinson non plus.
Pour éviter les problèmes, il tire à l'arc que la nuit au-dessus de l'arsenal. Parce qu'il y a un arsenal dans ce livre.
C'est vrai que la nuit, ça ne le handicape pas, c'est sûr.
On peut supposer que c'est Brest ou Lorient. Enfin, c'est difficile à dire. Peut-être un autre arsenal que l'auteur a inventé, en fait, aussi. Et puis, il y a aussi René. Alors, René, lui, il vit chez maman. Et René, qu'est-ce qu'il fait? Il court. En fait, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Mais non sans faire. Il court longtemps, mais non sans faire une étape bière à chaque bar qu'il croise. Et en Bretagne, des bars, sur son parcours, il y en a. Et ce petit Quatuor va vivre une aventure qui est à la fois onirique et en même temps bien réelle, rien qu'en écoutant les divagations fort documentée du colonel. Et puis ils vont finir par sortir du bistrot pour confronter cet univers où les gens portent des crisps pour se défendre, où les tics font partie du quotidien. Ils vont confronter cet univers à la morne réalité humide d'une ville de remparts. Comme le dit l'auteur, l'essence de la révolte, être un guerrier mouktar, c'est résister. Est-ce que leur rêve vaincra la réalité ? Je ne vais pas vous le dire, je vous laisse le découvrir en lisant ce court roman de 160 pages. Un roman à l'écriture très fine, aux personnages attachants, un univers très original. Alors évidemment, pas de meurtre, pas ou presque pas de flics, surtout pas de serial killer. Juste une vie tourbée, une flamme poétique que j'ai fini d'enthousiasme hier soir et dont je voulais absolument vous parler, vous faire part avant l'interruption estivale de nos ondes noires qui arrivera tout à l'heure vers 19h. Donc je rappelle Arnaud Le Goût et Fleck, le guerrier mouktar au cercle Sixto.
Voilà, très jolie couverture, un œil qui vous regarde. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Alors comme Jean-Marc Laherrère après va nous parler d'un auteur italien turinois et que Jean-Marc aime beaucoup le jazz, on va écouter un trompettiste sicilien, mais qui est justement passé très récemment au Festival de Jazz de Turin et qui reprend avec son groupe quelques morceaux de Led Zepp. Très arrangé. Donc on va écouter le morceau qui s'appelle Heartbreaker, que vous connaissez bien, vous reconnaîtrez le riff. Il est couplé ici avec Moby Dick. C'est le groupe de Giovanni Falzone, qui s'appelle Contemporary Orchestra, en italien. Et le guitariste, parce qu'on va l'entendre beaucoup, s'appelle Valerio Scrignoli. Donc Heartbreaker, Giovanni Falzone. Donc c'était Giovanni Falzone, Heartbreaker des Led Zepp, donc en fait de la musique contemporaine sur des thèmes de heavy metal joués par un orchestre de jazz. Pas mal, non ?
Voilà, j'espère que ce sera l'heure de plaire à Jean-Marc. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir, c'était très bien.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas, ici, il fait exactement le même temps que dans le livre dont vous allez nous parler, c'est-à-dire qu'il tombe des cordes.
Enfin, j'espère pas exactement le même temps, quand même.
Non, pas tout à fait, effectivement.
Ça s'appelle « Le fleuve des brumes ». C'est écrit par un Italien qui s'appelle Valerio Varesi. Ça paraît dans une toute nouvelle maison d'édition à Goulot. Et c'est traduit de l'italien par Sarah Amrari. Alors oui, effectivement, si pour vous l'Italie c'est Andrea Camilleri, Montalbano, la Sicile, le soleil, les trattorie en terrasse, là c'est raté. Là on est dans le nord, c'est la plaine du Pô, c'est l'hiver. Et le Pô est en train de... est en crue, comme à Paris il n'y a pas très longtemps. Et donc on est dans le cercle nautique d'une petite ville où les habitués jouent aux cartes, picolent, et puis il y a un papy qui sort toutes les demi-heures pour repérer le niveau de l'eau sur les poteaux qu'il a mis. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. À la radio, ils écoutent les avis d'évacuation, tout le monde surveille les digues avec beaucoup d'anxiété. Et dehors, il pleut donc, et il y a un vieux de la vieille qui quitte le quai aux commandes de sa péniche. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait plus de 60 ans qu'il navigue sur le Pô. Et il quitte le quai sans mettre ses feux de navigation, avec une manœuvre qui n'a pas l'air très maîtrisée. Et puis il s'en va, il descend. Et plus tard dans la nuit, les habitués appellent vite les gens le long du fleuve en disant « s'il y a un problème, il risque d'y avoir un accident sur un des ponts en aval ». Et effectivement, plus tard dans la nuit, la péniche échouée, il n'y a personne à bord. Et le patron s'appelait Tona, et il se trouve que le lendemain, le frère de Tona, dans une ville voisine, il passe par la fenêtre du troisième étage de l'hôpital. On ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre, mais en fait, deux frères comme ça, l'un coup sur coup. Donc un commissaire de police, Sonneri, est en charge des deux affaires et il va se heurter très vite au silence de tous ces papis du fleuve. Mais malgré ce silence, ce qui ressort rapidement, c'est que tout ça plonge ses racines dans la Deuxième Guerre mondiale, où les frères Tona étaient des fascistes, membres des chemises noires, qui dans la zone ont chassé les communistes et les partisans. Voilà, c'est le départ de l'histoire. Donc cette histoire se passe autour du Pô, donc le fleuve.
C'est joli, oui, autour du Pô, il faut faire attention.
Voilà, on ne va pas tourner autour.
Voilà,
on est en plein dedans.
Du fleuve italien.
Voilà. Et autour de cette période du fascisme. Alors c'est un... On ne va pas dire que c'est un roman d'une immense originalité, parce qu'on connaît dans le polar des gens qui font ça, c'est-à-dire prendre un meurtre dans la période actuelle qui prend ses racines dans le passé. Mais c'est très bien fait, c'est solide, l'intrigue est bien menée, il y a des beaux personnages. Et donc, c'est pour les amateurs de romans noirs qu'avec du fond, c'est déjà, on peut le conseiller sans restriction. Et puis, il y a quand même quelque chose en plus, c'est qu'il y a ce fleuve.
Oui, c'est un personnage.
Qui est le personnage presque principal. Parce que c'est lui qui rythme l'intrigue. C'est la montée des eaux, la baisse des eaux, le gel du fleuve, la brume. En fait, tout tourne autour de lui. Autour des centimètres inondés, de ce qu'il cache quand il monte, de ce qu'il finira par révéler quand il va redescendre. Les hommes dont on parle, ils vivent du fleuve, ils vivent autour du fleuve, ils meurent dans le fleuve. Ce fleuve, il coule, il déborde, il se transforme en brume, en glace, il empêche de traverser, il coupe des accès, il les permet de nouveau. Enfin, c'est vraiment lui le personnage principal. Et il est très très bien décrit.
Oui, moi je l'ai pas encore fini. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve que les mots qu'il emploie pour le fleuve et puis la montée des eaux, c'est vraiment très bien,
oui,
très bien rendu.
Voilà, c'est ça qui fait vraiment l'originalité, la force de ce roman. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même en Italie, même s'il pleut, même s'il fait froid, si c'est... Et donc, on a quand même droit à quelques passages gastronomiques. Alors, c'est pas du tout la gastronomie sicilienne. Là, c'est qui tient au corps. c'est du solide. Mais les personnages aiment manger quand même. Donc, comme quoi, du nord au sud de l'Italie, il y a
comme
quelques
vous
constances.
Dites, on est en Italie.
Voilà, il y a quelques constances qui sont là. Et c'est à lire vraiment pour découvrir. Alors, c'est pas forcément. Comment dire, très précisément positionné dans la plaine du Pô, ou alors il faut être un spécialiste, mais c'est vraiment, pour, je pense, pour se centrer sur ce fleuve.
Bah, ça me fait. Enfin, moi, ce que j'en ai ressenti pour le moment, hein, c'est qu'effectivement, les hommes passent, les histoires passent, les haines restent, et le fleuve est immuable. Et le fleuve commande tout, finalement.
Oui,
parce que personne ne peut empêcher les eaux de monter, personne ne peut empêcher le Pô de couler là où il coule. Et ça, je trouve que c'est un point de vue très très intéressant dans l'intrigue.
Exactement. Et puis, quand on veut découvrir ce qu'il veut cacher, ben, on est obligé d'attendre.
Voilà.
On attend qu'il baisse.
C'est pour ça que d'ailleurs, le livre est un peu gros, d'ailleurs.
Oui.
Parce que et puis il y a quand même quelques personnages, même si c'est pas, alors on n'est pas dans la truculence d'un Camilleri, il y a quand même ces personnages du cercle au début qui sont quand même un petit peu haut en couleur quand même.
Oui, il y a un groupe de personnages là dans le cercle qui sont très haut en couleur, et puis il y a un commissaire qui moi m'a fait un peu penser à Dansberg par un côté comme ça très intuitif. Qui part se balader alors qu'on l'attend dans son bureau, on s'attend à ce qu'il fasse des recherches sérieuses, et puis lui, en fait, il tourne, il vire, il va voir les gens, il traverse de l'autre côté, il sait pas trop pourquoi, mais il y va, parce que il se perd dans les brumes, et puis il y a une idée qui arrive, comme ça.
Je pense qu'on va
les revoir, parce que c'est un roman qui a été écrit en 2003 en Italie. Donc il y en existe peut-être déjà d'autres, et je pense qu'on va retrouver Soneri et le Pô.
Ben, on va espérer surtout que voilà, c'est une nouvelle édition, hein, vous l'avez dit, c'est les éditions Agoulot.
Oui.
Nadège Agoulot qui se lance avec des amis dans cette aventure, hein, avec une couverture très originale, parce que, à ma connaissance, hein, c'est une des seules éditions où il n'y a pas le titre et le nom de l'auteur directement sur la couverture.
Exactement, c'est assez intriguant.
Voilà, mais sur un bandeau, donc il ne faudra pas perdre, mais enfin, on retrouve quand même tout ce qu'il faut sur la couverture, sur la tranche. Et puis, ce que je trouve très intéressant, parce que ça, c'est la première fois, sur le bandeau, à l'intérieur, il y a une citation en version originale.
Ah, j'ai pas fait attention à ça.
Eh ben voilà, vous le regarderez. Ça, je trouve que ça un petit peu rend justice et à la langue originale et en même temps au travail de traducteurs, aux passeurs, que sont tous ces excellents traducteurs qui nous font partager ces romans étrangers. Et, voilà, on n'aurait rien sans eux. Donc voilà, c'est un petit coucou aussi à la traduction.
Oui, je crois qu'il y a des. Enfin, non, je crois pas. Il y a déjà un deuxième livre publié dans cette maison d'édition qui est un roman roumain. Que je n'ai pas lu.
Mais encore là, voilà, vous me collez parce que je me souviens plus du titre. Mais voilà, les deux sont sortis en même temps en mi-mai. Mais je crois qu'il me semble qu'on a déjà un petit peu pris rendez-vous avec un des éditeurs pour parler un petit peu de la ligne éditoriale début octobre. Donc, on saura plus des brumes. On enlèvera un petit peu plus les brumes du fleuve et de la Roumanie en octobre. Et je crois qu'il y en aura aussi un autre à la rentrée. Jean-Marc, on va vous remercier infiniment pour tous les livres que vous nous avez donné envie de lire toute cette saison, dire qu'on peut vous retrouver de toute façon sur votre blog Actu du Noir, que vous allez mettre certainement quelques chroniques tout cet été, même quelques-unes. On va vous souhaiter un bon voyage, apparemment vous partez assez loin.
Oui.
Donc on va vous souhaiter de très très bonnes vacances et que vous reveniez avec plein de bonnes lectures et de bons conseils à donner. Donc encore un grand merci et à très vite.
Au revoir, Jean-Marc. Merci à vous de m'accueillir dans votre radio et à très bientôt. Bonnes vacances à tous.
Merci, au revoir. Voilà, après quelques infos, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission.